à chacun. Et merci au Seigneur, parce que si nous sommes là ce matin, c'est lui qui nous appelle. Et je vais vous lire le texte qui... Un texte bien connu, mais souvent les textes bien connus, ils ont besoin de les relire. Et se trouve dans Matthieu 6, donc c'est dans ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Matthieu 6, des versets 18 à 34. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis... Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne s'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera ajoutée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Ici notre lecture. Je vous propose de prier. Seigneur, chaque fois que nous ouvrons ta parole, nous sommes émerveillés par sa pertinence, par toi qui viens nous parler à travers, entre autres, ta parole, Seigneur. Merci pour ce don qui a traversé les siècles et qui est arrivé jusqu'à nous, Seigneur, pour que nous puissions apprendre de toi, mieux te connaître. Rends-nous un cœur bien disposé à l'écoute de ta parole, Seigneur, de ce que tu veux nous dire, jour après jour, et particulièrement en ce jour mis à part pour toi, Seigneur, au milieu des frères et sœurs. Loué sois-tu pour ce don ineffable, Seigneur. Amen. Alors, qu'affirme ce texte? Vous l'avez entendu, hein, une série d'impératifs et puis un jugement sur la foi de ses interlocuteurs. Alors, dans les impératifs, amasser des trésors dans le ciel et non sur la terre, rester dans la lumière et non dans les ténèbres, ne pas servir mammon, notre mot qui est traduit parfois dans nos Bibles par argent, mais servir Dieu. Ne pas s'inquiéter de notre vie. Alors de notre vie, c'est intéressant parce que dans le texte, le mot grec qui est traduit par vie, c'est en gros c'est psyché. En grec, il y a deux mots qui traduisent la vie. Il y a zoé. Zoé, c'est la vie, on va dire peut-être la vie biologique, la vie, voilà, toutes nos cellules qui vivent, notre cœur qui bat, notre intestin qui digère, nos poumons qui respirent, etc. Ça, c'est zoé. Et psyché, c'est ce qui a donné après en latin l'âme, qui est devenu, on l'a chanté tout à l'heure, hein, prends mon âme, prends ma psyché. Donc, ne pas s'inquiéter de notre âme. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est aussi se garder de pratiquer une justice devant les gens pour en être vu, hein, comme le rappelle Jésus dans le début de son sermon sur la montagne, Matthieu 6, 1. C'est aussi les promesses d'un bonheur heureux. Ceux qui ont faim et soif de justice. On est rappelé Matthieu 5, verset 6. Nous avons vu aussi que son amour valait mieux que la vie, nous l'avons chanté. Et il nous est aussi dit au verset 10 de ce chapitre 5, nous sommes heureux si nous sommes persécutés à cause de la justice. Le royaume de Dieu est à nous, quelque chose. Et puis il nous est dit aussi que tout nous sera donné, et il fera bien plus pour nous, ses enfants. Et puis il s'adresse aussi à des gens de peu de foi, les scribes, les pharisiens de l'époque, hein, les religieux de l'époque, Matthieu 5, 20, mais ça on pourrait dire, bah oui, c'est les religieux contre qui se battait en quelque sorte Jésus, mais il parle aussi des disciples. Vous vous rappelez que deux chapitres après, au Matthieu 8, quand la tempête souffle, que les disciples ont peur de mourir sur ce bateau, et que Jésus va leur dire « gens de peu de foi ». Et puis il va leur redire aussi, si jamais ça ne suffisait pas, genre de peu de foi quand ils sont incapables de guérir un malade. Genre de peu de foi. Il va le redire aussi, pas n'importe quel disciple, à Pierre. Quand Pierre est en train de se noyer, quand il marche sur les eaux et que Jésus va lui tendre la main pour le sauver. Homme de peu de foi. Ça ne suffira pas, il faudra aussi qu'en plus il renie le Seigneur dans, conformément à ce que Jésus lui avait annoncé, lui qui était parti en vainqueur, un homme de peu de foi. Alors qu'est-ce que Jésus propose? Comment il décrit ses affirmations? J'ai vu dans ce texte deux choses. Il y a d'abord la proposition de deux voies, deux chemins qui s'offrent à nous, jour après jour, hein, pour notre vie entière, ici sur la terre, par le trésor accumulé sur la terre ou accumulé dans le ciel. Pillé par les voleurs, rongé par les vers ou à l'abri des dangers. Vous êtes peut-être arrivé d'être cambriolé. Ça m'était arrivé, mais il y a bien longtemps, puis c'est arrivé à nouveau cette fois, il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais gardé une bague de ma mère, la chevalière de mon père. Bon, ils sont partis. Comme ça. Le voleur s'en est emparé. J'avais pris un peu d'argent parce que pour amener ma petite fille au manège, il fallait de l'argent liquide. Alors j'ai fait un prélèvement. J'avais dépensé 10 euros pour les jetons, mais les 100 euros qui restaient, ben voilà, ils sont partis aussi. Mais, bon, voilà. Là où le voleur perd ses dérobes. Et puis quand en avril il a commencé à faire chaud, j'ai voulu ressortir une tente pour abriter la terrasse. Et puis là, alors, là c'est les rats. Ils ont grignoté. Bon, voilà. Je l'ai bien rangé hein, dans le plastique, mais ça n'a pas suffi. Ils ont dû s'en servir pour nicher. Voilà. Pas s'accumuler des biens ou le voleur des robes ou les bêtes rouges. La proposition de ce trésor dans le ciel et sur la terre, la proposition d'un œil qui va voir la lumière ou un œil qui éclaire les ténèbres, là encore, deux chemins. L'argent, les biens matériels. Quel maître servons-nous? Le maître Mammon, l'argent, le dieu de l'argent, dieu du pouvoir, ou le Seigneur? Là encore, deux voies. Ces deux voies seront retrouvées au chapitre suivant. Je n'ai pas lu le chapitre 7, mais qui commence, si vous en souvenez, par ce chemin large qui mène à la perdition et cette porte étroite par laquelle nous devons passer. Dieu nous invite à passer. Là encore, deux chemins. Donc cette illustration du Seigneur sur ces deux voies, et puis une autre illustration par le lys des champs, les oiseaux des fiels. Et je trouve que ça pointe deux éléments. Ça pointe d'une part les qualités de notre Dieu, et d'un autre côté, les qualités de notre foi. En ce qui concerne les qualités de notre Dieu, que Jésus veut nous faire connaître en parlant à la foule sur la montagne, la générosité d'un père qui donne gratuitement, selon son bon vouloir. Une générosité, une justice aussi. Une justice qui est bien différente de la justice du monde. Elle est miséricorde du Père céleste qui prendre soin de chacun. Je lisais les paroles d'un théologien allemand qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer, qui avait, en choisissant le chemin du Seigneur, avait terminé sa vie en mai 45 dans les camps de concentration, et qui disait que cette justice, elle est grâce. Parce qu'elle a fait à l'homme le cadeau de sa vie. Justice de Dieu, générosité de Dieu, du Père, la gloire du Père aussi. Bien différente de la gloire de Salomon. La gloire de Salomon, elle réside dans sa sagesse, elle réside dans sa capacité à connaître, dans sa capacité à apprendre, à travailler. Et cette gloire-là, elle ne dépasse pas la gloire du lys des champs. Nana des lys des champs en ce moment. Il ne dure pas très longtemps. La gloire de Dieu, quant à elle, elle n'est pas construite sur un pouvoir humain. Et on a vu toute l'ambivalence que pouvait avoir ce pouvoir humain qui est capable des plus belles choses, mais aussi des plus atroces. générosité de notre Père, justice de notre Père, gloire de notre Père, et sagesse de notre Père, de notre Dieu, qui prend soin de ceux qui justement ne peuvent pas se prévaloir de leur force, de leur intelligence, de leur travail. Belle incitation à l'humilité. Et c'est ce lys, ces oiseaux, lys des champs, ces oiseaux du ciel, donc ils pointent la générosité, la justice, la gloire, la sagesse de Dieu. Et ils pointent aussi, on l'a vu, le manque de foi des auditeurs et notre manque de foi, mon manque de foi, qui ne nous permet pas de croire à l'assistance de Dieu, qui est pourtant capable de prendre soin de l'herbe des champs. Ses disciples, vous, moi, à leur suite, nous courons le risque de nous soucier du manger, du boire, du vêtement, oubliant que le Père Céleste, notre Père, se préoccupe de non seulement de ceux qui nous ont précédés, ses disciples qui ont témoigné du plan de Dieu, mais il se préoccupe aussi de nous, aujourd'hui, 2026, au printemps 2026. Et si nous accordons bien, comme nous le proclamons souvent, la priorité à la parole de Dieu, alors que faire de ce que Jésus a dit à ceux qui l'écoutent? Que faire de ce que Jésus nous dit? Et en effet, ce qui est affirmé, c'est tout sauf une justification à ne pas bouger. Il nous est demandé de rechercher. Je ne sais pas, moi, quand j'ai perdu quelque chose, je recherche, je ne reste pas assis sur ma chaise à chercher dans ma tête. Je bouge, je me déplace. Et cette demande de chercher doit déclencher un mouvement. Rechercher, c'est bouger, aller à la recherche d'eux. Et alors, que faire? Peut-être déjà recenser nos inquiétudes, les porter devant notre Dieu. Les inquiétudes me concernant, d'abord, parce que on est toujours un petit peu auto-centré quand même. Alors, c'est d'abord mes inquiétudes. Les inquiétudes d'apporter la prédication au pied levé ce dimanche. Les inquiétudes sur ma santé qui peut poser des problèmes. Les inquiétudes sur la satisfaction ou non de mes besoins. Les inquiétudes sur mon travail, sur mon pouvoir d'achat, ma place dans la société, ma place dans l'Église. Ça, c'est des inquiétudes me concernant, mais il y a des inquiétudes qui me concernent aussi ma famille, mes proches, ma famille, l'incrédulité de leurs membres, les mauvais choix qu'on peut leur voir faire, et on sait que sont des mauvais choix. Leur santé, tout un tas de préoccupations légitimes pourtant pour ceux qui nous entourent. Et puis concernant ceux qui m'entourent hors du cadre de la famille, des non-croyants, des croyants de toute obédience, des croyants, des membres, des sympathisants de mon église, de mon assemblée locale ici à la Clé des Champs. Mes inquiétudes concernant le monde, sa misère qui touche des millions de personnes, les persécutions, les guerres, la perspective d'une fin du monde. Beaucoup d'inquiétudes apportées devant notre Seigneur. Et puis aussi, dans les choses à faire, outre lui confier nos inquiétudes, c'est aussi reconnaître notre manque de foi, mon manque de foi. Comme les disciples dans les tempêtes, comme ou face à l'inaction, l'inefficacité de leurs actions, comme Pierre en train de se noyer, comme Pierre en train de renier son Seigneur. Oui, mais alors comment le faire? Comment je fais tout ça? Bien, quand on réfléchit aux disciples, Pierre en tête, tous ces gens de peu de foi qui vont annoncer l'évangile dans tout le monde romain et par la suite sur la planète entière. Et il a fallu qu'ils cheminent dans leur relation avec celui qui prend soin des oiseaux du ciel, qui prend soin des lys du champ, de champ. Il a fallu qu'ils reçoivent le Saint-Esprit venu habiter en eux, qui leur permet de ne pas s'inquiéter, de recevoir la grâce de Dieu, malgré leur peu de foi. Et un autre exemple, s'il en fallait d'autres, parmi les disciples, Paul qui demande instamment au Seigneur de le guérir, et vous rappelez la réponse du Seigneur, « Ma grâce te suffit ». Et tout ce processus, ça renvoie à ce que nous rappelait le pasteur Marc Ponce dans sa lettre qu'il a adressée à Nicodème lors de sa dernière prédication. Je ne sais pas si vous en souvenez. Il s'agit tout simplement de la nouvelle naissance, de naître d'en haut. Nous qui pouvons témoigner, être nés de nouveau, cherchons d'abord le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Acceptons avec reconnaissance ce qui peut nous être donné. Accumulons des trésors dans le ciel, dans une instance complètement extérieure à ce monde et à sa logique. Là encore, reconnaissons nos limites sans Dieu. En nous rappelant ce que Dieu a déjà accompli dans nos vies et que nous sommes invités à la confiance absolue dans notre Père Céleste, lui qui est, dont on a vu la générosité, la justice, la gloire, la sagesse. Et cela va nous rendre joyeux. Joyeux, une joie intérieure qu'il ne faut pas avoir peur d'extérioriser, mais d'abord une joie intérieure, une reconnaissance et une pleine compassion auprès de tous ceux qui nous entourent, dans nos familles, ailleurs dans la société, croyants, non-croyants, et aussi une tristesse et une colère devant le péché. Alors, est-ce que ça vaut la peine tout ça? Il nous est dit que tout sera donné en plus. Alors, attention, ne pas le comprendre comme un Dieu qui serait, comme le rappelait le pasteur Thierry Mathieu, qui serait un distributeur de bénédictions. On irait à la machine, on taperait la bénédiction, et puis pauvre, ça tomberait comme le café, avec ou sans sucre. Non, c'est pas ça. Mais nous pouvons être heureux et reconnaissants de ce qui nous a été donné. Notre santé, notre famille, notre travail, mais surtout l'espérance d'une vie éternelle. Là, ça nous fait passer du peu de foi, c'est-à-dire du souci de soi, à la recherche du royaume et de la justice de Dieu, à la construction d'un lien toujours plus fort avec notre Seigneur, notre Père. Et cette espérance que Paul résume dans sa première lettre aux Corinthiens, pour rappeler ce Dans 1 Corinthiens 15, verset 19, verset que j'ai souvent pointé à l'occasion de deuil, de cérémonie de deuil, quand pour les proches du défunt. Et si c'est dans cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous les humains. Et nous avons besoin pour cela du Saint-Esprit venu habiter en nous. Nous l'avons entendu dire de Jésus au moment de son ascension. Et ce qu'il a annoncé, il l'a envoyé, ce Saint-Esprit, au moment de la Pentecôte. Et c'est de cet esprit-là qu'il nous faut vivre, pas de l'esprit de ce monde. Et c'est cet esprit-là qui nous permet de dire sereinement, à chaque jour suffit sa peine, le lendemain on va soin de lui-même. Amen. Prions. Oui, Seigneur, nous devons confesser notre manque de foi, nos soucis du lendemain, Seigneur. Et nous avons besoin jour après jour de notre Père, de ta générosité, de ta justice, de ta gloire, de ta sagesse, Seigneur. Oui, nous avons besoin de ton esprit venu habiter en nous. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Loué sois-tu. Amen, Seigneur.